à Voilu. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Hélène Renard.
Madame, Monsieur, bonjour. En octobre 2005, lors de la séance solennelle de rentrée, l'Académie des sciences morales et politiques a décerné de nombreux prix, parmi lesquels le prix Zérilly Marimo, un prix annuel destiné à récompenser une œuvre qui met en valeur le rôle de l'économie libérale dans les progrès des sociétés et l'avenir de l'homme. Et c'est Monsieur Michel Candessu qui, en octobre 2005 donc, a été distingué par ce prix pour son rapport intitulé « Le sursaut vers une nouvelle croissance pour la France », un rapport officiel publié par la Documentation française. Michel Candessu fut, rappelons-le, directeur général et président du conseil d'administration du FMI, Fonds monétaire international, à partir de janvier 1987. Il avait d'ailleurs succédé à ce poste à Monsieur Jacques Delarosière, membre de l'Académie des sciences morales et politiques. Michel Candessu exerça cette fonction jusqu'en février 2000. En mai 2004, le ministre d'État, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, M. Nicolas Sarkozy, avait confié à Michel Candessu le soin de constituer un groupe d'experts indépendants pour, je cite, « contribuer à éclairer pour les Français et leur représentation nationale les choix économiques et budgétaires à venir en faveur de la croissance ». Michel Candessu a ainsi réuni une vingtaine de personnalités connues pour leur courage et leur esprit d'initiative, reconnus aussi pour leur indépendance d'esprit sans se soucier de leurs orientations politiques. Outre plusieurs personnalités syndicales, ce groupe de travail comportait notamment des chefs d'entreprise, parmi lesquels d'ailleurs l'académicien Bertrand Collomb de l'Académie des sciences morales et politiques. Et après 100 jours de travail, M. Candessu a présenté son rapport qui porte le titre, je vous le disais à l'instant, « Le sursaut vers une nouvelle croissance pour la France ». En moins de 200 pages, celui-ci présente donc un diagnostic, une analyse explicative, une méthode de réforme pour la France. Tout un chapitre du rapport est intitulé « D'autres l'ont fait ». Comme illustration du succès du modèle social européen, le rapport Candessu montre de manière lumineuse les leçons que la France devrait tirer des exemples de la Finlande, de la Suède et du Danemark, sans oublier l'expérience britannique de stimulation de la croissance par l'augmentation de la quantité de travail. Le rapport Candessu, il faut le dire, a fait couler beaucoup d'encre. Certains l'ont qualifié d'ultra-libéral, quand bien même il préconise de taxer les entreprises qui licencient, de développer la participation des salariés, de limiter la rémunération des hauts dirigeants, de fonder le développement durable, notamment sur le soutien de la vie associative. Le rapport Candessu constitue une feuille de route pour le redressement de la France. Il est probablement le plus important dans ce domaine depuis le rapport Rueff-Armand de 1960, mais contrairement à ce dernier, il manque encore, pour appliquer le rapport Candessu, la force politique nécessaire au sursaut de la conscience. Donc le travail de M. Michel Candessu a été distingué, je le disais, par l'Académie des sciences morales et politiques qui l'a honoré d'un prix prestigieux, le prix Zérilly Marimo, en octobre 2005. Et Canal Académie vous propose maintenant d'écouter la lecture de la communication faite devant l'Académie des sciences morales et politiques par Michel Candessu en 2003. Cette année-là, sous la présidence de M. Marcel Boiteux, le thème choisi était « L'homme et sa planète ». C'est dire qu'il y fut beaucoup question de développement durable, comme le prouve d'ailleurs le titre de la communication de Michel Candessu, « La dimension sociale du développement durable ». En voici la lecture.
Je dois le confesser d'emblée, le concept de développement durable me cause bien des soucis. Je le dis, sachant bien que rien n'est plus politiquement incorrect, que de faire mine de ne pas partager l'enthousiasme inconditionnel qu'il suscite. Voici qu'en deux phrases, j'ai probablement éveillé quelques soupçons. On sera peut-être tenté de se dire « voici un de ces financiers qui s'exprime avec encore plus d'impudence que le reste de la confrérie ». Le développement durable est décidément le cadet de leurs soucis. Eh bien non. Non, mon souci vient précisément de ma conviction que l'ambition que ces deux mots expriment est vitale pour le devenir de l'humanité, mais que, comme telle, elle ne peut être satisfaite au rabais. Elle est si vaste, que l'on est en droit de craindre que le dicton ne s'applique, qui trop embrasse mal étreint. L'effet de mode est si fort qu'il risque de couvrir les initiatives peu méritoires et de contribuer à galvauder un concept qui rejoindrait alors d'autres grandes idées au vaste cimetière des utopies.
Puis M. Kansu va exposer maintenant le plan de sa communication en trois points. Le lien inextricable entre trois préoccupations divergentes, le bilan de 30 ans d'efforts, bilan décevant, il faut l'avouer, et enfin, les conditions d'une conciliation pour l'avenir. Premier point, donc, tout le monde le sait, tout le monde l'affirme, l'économique et le social, l'environnemental sont inextricablement liés maintenant, alors que les préoccupations de ces trois domaines étaient originellement divergentes. On écoute Michel Kansu exposer ce premier point.
Quel est l'apport original de ce consensus universel, tardif peut-être, mais bienvenu, sur le développement durable? Très simplement, la reconnaissance de la nécessité impérative aujourd'hui d'intégrer harmonieusement la croissance économique, le progrès social et le devoir écologique dans toute la stratégie de développement. À partir de là, pourra être dégagée une stratégie globale permettant de faire face aux risques majeurs de notre temps. La substitution de ce concept à la recherche de la simple optimisation quantitative de la croissance est évidemment un développement heureux. Avec lui, nous voyons en quelque sorte l'humanisme irrigué, certains diront donner une âme, à l'économie. Ce sont en effet les ambitions les plus hautes de l'homme qui s'expriment ainsi, son ambition sans limite de créateur, sa volonté de régulation pour maîtriser les forces qu'il met en mouvement, son ambition enfin de donner un sens ultime à ce qu'il fait. Cette recherche du sens, sans lequel son existence même s'étiolerait dans une ruine de l'âme collective, comme le dit si bien Jean-Baptiste de Foucault dans ses trois cultures du développement humain. Mais on ne le reconnaît pas assez, la tâche est prométhéenne. Il s'agit de réconcilier et de placer en une interaction positive trois immenses ambitions. Elles sont celles d'une multitude d'acteurs dans l'infinie diversité des environnements culturels, dans ce contexte de plus en plus immaîtrisable de la mondialisation. Car nous le savons bien, et ici je reprends aussi les mots de Jean-Baptiste de Foucault, plus le monde se globalise, plus le global sort de notre emprise, moins il est maîtrisable. Allons plus loin. Reconnaissons qu'il s'agit de faire concourir ensemble à l'objectif commun du développement durable trois ambitions dont les dynamiques originelles sont antagoniques et sollicitent l'agir des hommes dans des directions différentes, voire opposées. Le char du développement durable est une troïka dont les chevaux auraient tendance à tirer à hue et à dia. Le défi est donc de les maîtriser et de mettre leur énergie au service d'une stratégie de la communauté humaine pour le XXIe siècle. Nous le savons, la dynamique originelle, j'allais dire la pulsion originelle du développement économique, tend à s'exercer vers l'accumulation, au mépris du progrès social et de la préservation de l'environnement. Cette dernière, livrée à sa propre logique, peut conduire à l'inertie et risque de paralyser la poussée de la croissance, voire les efforts de subsistance des plus pauvres. Enfin, le souci de l'accroissement des revenus à distribuer peut menacer la part de l'investissement et de la préparation de l'avenir dans l'allocation des ressources et par là réduire les chances des générations futures. Tout cela est clair, mais pourtant trop longtemps ignoré dans bien des discours des promoteurs les plus ardents de la stratégie du développement durable.
Vous l'avez entendu, le char du développement durable est une troïka dont les chevaux tirent à hue et à dia. Voilà une citation de Michel Kansu que l'on peut retenir. Mais il revient maintenant au point essentiel de son raisonnement, le lien entre la dimension sociale et le développement durable.
Arrêtons-nous un instant pour mieux percevoir comment la dimension sociale doit s'intégrer, doit s'insérer dans une stratégie du développement durable. Notons d'abord que, bien plus que contradiction entre eux, il y a un effet de circularité entre le développement économique et la lutte contre la pauvreté. Certes, on a été longtemps attentif qu'à la relation linéaire allant de la croissance quantitative à une amélioration progressive de la condition des plus défavorisés. On connaît désormais la circularité de la relation. L'amélioration progressive de la situation sociale est en effet indispensable pour que, sur le plan politique, les efforts de recherche de l'équilibre macroéconomique et monétaire puissent être maintenus suffisamment longtemps pour autoriser un progrès social accru et permettre l'acceptation par tous des sacrifices qu'appelle le respect de l'environnement. Cela souligne aussi la relation essentielle qui existe entre le développement social et un développement véritablement durable. 1000 exemples pourraient l'illustrer. Je n'en prendrai qu'un seul, celui de l'eau. Cet exemple me tient particulièrement à cœur, car il m'a été demandé de présider un groupe d'experts financiers mondiaux chargé de proposer des solutions au redoutable problème du financement des infrastructures nécessaires pour satisfaire l'objectif de réduire de moitié la proportion des gens qui, à travers le monde, n'ont accès ni à l'eau potable, ni à l'assainissement des eaux usées. Laissez-moi vous dire qu'au cours de ce travail, il nous est impossible de discerner si nous poursuivons un objectif social et humanitaire, une tâche de protection de l'environnement, ou si nous essayons d'éliminer un obstacle majeur de la croissance. En fait, ces trois objectifs s'enchevêtrent et se soutiennent mutuellement. On sait par exemple qu'environ 5 millions d'enfants meurent chaque année de maladies liées à l'insalubrité de l'eau. Le poids de la corvée d'eau sur la vie des femmes africaines est bien connu. On sait aussi qu'un grand nombre de jeunes filles manquent la classe pour participer à cette tâche familiale. On oublie cependant le nombre très important d'adolescentes qui sont retirées du cursus scolaire par leur famille parce que leur intimité n'est pas protégée par le caractère trop rudimentaire des toilettes disponibles. Or, il est bien clair que tout ce qui retarde ou empêche la scolarisation des filles fait obstacle au rôle social des femmes et donc à l'évolution d'ensemble de ces sociétés. Si l'on prend en compte le coût financier des investissements correspondants, la place des équipements en eau pour le développement rural et l'aménagement urbain, on perçoit combien il est indispensable d'articuler convenablement les préoccupations sociales et celle de protection de l'environnement au sein de programmes d'ensemble de réduction de la pauvreté et de développement économique. En fait, il est capital que ces trois éléments soient mis en place simultanément. Le retard de l'un ou l'autre met la construction en déséquilibre.
Michel Candessu insiste sur ce point essentiel. Le développement durable implique une conception humaine intégrale. Et là, il va faire maintenant référence, vous allez l'entendre, référence à quelques-uns des penseurs qui inspirent une telle conception humaine intégrale.
Une conception humaine et intégrale du développement humain, et j'utilise à dessein le langage de Jacques Maritain, requiert ainsi la réconciliation de ces trois dynamiques potentiellement divergentes. Il est heureux que le concept du développement durable reflète cette nécessité. Il est surtout heureux qu'il ait enfin émergé dans un croisement des recherches, surtout anglo-saxonnes, sur les dynamismes du développement et des conceptions personnalistes qui ont trouvé quelques éminents promoteurs dans notre pays, de Maritain, certes, à François Pérou et des hommes comme le père Lebray, l'un des inspirateurs de la célèbre encyclique Populorum Progressio de Paul VI, ce pape si imprégné de culture française. Rendons donc hommage à ces hommes et à tous ceux qui, à travers les 50 dernières années, ont été les accoucheurs de ce concept, tout comme à la foule innombrable des militants de la société civile qui ont contribué à le porter sur les fonts baptismaux.
Mais hélas, une chose est de dégager un concept stratégique central, autre chose est de l'appliquer. De fait, il est loin d'avoir pénétré nos cultures et de puissants intérêts établis se trouvent sur sa route. Cela explique pour partie le bilan insuffisant des efforts des 30 dernières années et c'est ce point que Michel Candessus développe maintenant en tentant de dresser le bilan de 30 années d'avancée vers la prise en compte de la dimension sociale du développement durable.
L'histoire des 30 dernières années est précisément faite d'une distillation progressive et parfois trop incantatoire des éléments de la stratégie de développement durable, mais aussi de la lenteur de sa mise en œuvre. C'est donc l'histoire d'avancées mêlées de déceptions et d'échecs, tous plus ou moins liés à notre refus de reconnaître le prix véritable à payer pour un développement de qualité. Les commentateurs sont fréquemment sévères, non sans quelque raison, sur un bilan qu'ils jugent piteux. C'est peut-être oublié cependant, et le point de départ, et la difficulté de la tâche. La génération qui a dégagé le concept de développement durable est arrivée aux affaires à une époque où le primat du progrès économique sous sa dimension quantitative était peu contesté. C'était l'époque de ce que les économistes anglo-saxons appellent l'économie de la tonne. Elle s'affirmait triomphante dans la planification soviétique avant que l'on n'en décèle toutes les limites et l'échec final. Le concept de développement durable n'existait pas. Le mot même d'environnement, s'il figurait au dictionnaire, n'avait pas l'acception que nous lui donnons aujourd'hui. La fragilité du cadre de vie que nous léguerons aux générations qui nous suivent n'entrait guère dans le champ de nos préoccupations. Le progrès social passait alors simplement par la maximisation des taux de croissance et par l'efficacité des systèmes redistributifs. C'était aussi l'époque du cloisonnement des institutions mondiales. La division de leurs tâches s'inspirait des conceptions de l'immédiate après-guerre. Elle ignorait la relation systémique entre la poursuite des différents objectifs de développement social que je viens d'évoquer. Je me souviens de l'admiration, mais aussi de la stupeur, dans certains cercles, provoquée en 1986 par un beau discours de mon prédécesseur au Fonds monétaire international s'exprimant à Genève sur la nécessaire prise en compte de la dimension sociale dans les programmes de stabilisation économique et monétaire dont son institution avait la charge. La conviction était alors bien établie qu'il suffisait de faire de la bonne stabilité économique et monétaire pour qu'une croissance socialement équitable vous soit donnée par surcroît. Toute addition de préoccupations sociales, d'interventions publiques, de prétentions à corriger des erreurs du marché était suspecte et risquait de susciter les clameurs des gardiens de l'idéologie néolibérale ou de l'héritage thatchérien.
Néanmoins, et petit à petit, bien des évolutions se sont produites qui sont passées par des étapes. Michel Candessus va maintenant les rappeler, ces étapes.
La reconnaissance de la nécessité d'enrichir le concept de croissance en le soumettant à l'impératif de préservation de l'environnement et en le subordonnant à une finalité sociale, le combat contre la pauvreté. C'est ce qu'on a appelé l'acquis de Rio en 1992. La reconnaissance aussi de la nécessité de passer d'une relation d'assistance à une relation de partenariat entre les peuples, si l'on veut véritablement ancrer durablement le développement dans les dynamiques de la mondialisation. Cela a été explicité vigoureusement à la conférence de Monterrey en mars dernier et repris dans une synthèse d'ensemble à Johannesburg.
Avec le recul de l'histoire, on aperçoit mieux comment ces évolutions ont pris place, ouvrant chaque fois des horizons plus larges vers le développement durable, ouvrant de nouveaux espoirs, mais aussi, Michel Cordessus le souligne, de nouvelles déceptions. Écoutons ce qu'il dit par exemple des accords de Bretton Woods.
Dès la fin des années 1980, alors que les principaux actionnaires des institutions de Bretton Woods préconisaient simplement la mise en place de stratégies d'ajustement orientées vers la croissance pour faire face à la crise de la dette des années 1980, ces institutions se sont de plus en plus orientées vers une définition de la croissance, dite de haute qualité, qui recoupait pour l'essentiel celle du développement durable qui allait progressivement être dégagée du rapport Brundtland adopté fin 1987. Toujours au sein des institutions de Bretton Woods, cette définition allait trouver sa consécration dans les documents de stratégie pour la réduction de la pauvreté et de la croissance. Ces documents qui guident l'action de ces institutions dans les 75 plus pauvres des pays place la stratégie du développement durable au cœur des programmes de ces pays, à l'occasion souvent d'opérations importantes de réduction de la dette. Ils ont surtout pour caractéristique de n'être adoptés qu'après une vaste consultation des populations, et en particulier des éléments les plus dynamiques de la société civile. Ils reflètent en fait une stratégie qui s'efforce de concilier les ressources disponibles et la poursuite des objectifs du développement humain dit du millénaire.
Au cours de la dernière décennie, un chapelet de grandes conférences mondiales sous l'égide des Nations Unies a distillé les principes d'un développement humain durable. Michel Cordessus rappelle les engagements pris lors de ces conférences.
Elles se sont toutes conclues par l'adoption d'une série d'engagements réitérés lors du sommet du millénaire en septembre 2000 et qui, ensemble, constituent le cœur d'une charte de fête du développement durable. Est-il nécessaire de les rappeler ? Ils ont tous pour horizon l'an 2015. Nous nous sommes notamment engagés pour cette date à réduire au moins de la moitié la proportion des personnes dont le revenu est inférieur à 1 dollar par jour. À réduire au moins de la moitié la proportion des personnes qui souffrent de la faim. À réduire au moins de la moitié la proportion des personnes qui n'ont pas accès à l'eau potable. À s'assurer que partout les enfants pourront accéder à une pleine éducation primaire. À s'assurer de l'égal accès des filles et des garçons à tous les niveaux d'éducation. Avoir réduit la mortalité maternelle des trois quarts. Avoir réduit des deux tiers la mortalité des enfants de moins de 5 ans. Avoir stoppé et commencé à réduire la progression du sida, de la malaria et des autres grandes maladies. Assurer une assistance spéciale aux enfants orphelins du sida. Johannesburg devrait y ajouter l'engagement de réduire de moitié la proportion de personnes, elles sont plus ou moins aujourd'hui au nombre de 3 milliards, qui ne bénéficient pas d'un assainissement acceptable des eaux usées. Et d'ici 2020, avoir réalisé une amélioration substantielle des conditions de vie d'au moins 100 millions d'habitants de bidonville.
Michel Cordessus revient sur un point fondamental à ses yeux, l'engagement de réduire la proportion de la population dont le revenu est inférieur à 1 dollar. Il souligne combien la lutte contre la pauvreté est essentielle dans le développement durable.
De toutes les causes, mais aussi de toutes les conséquences de la dégradation de l'environnement, la pauvreté est la plus dangereuse et la plus inacceptable. Elles doivent être combattues d'un même mouvement. Notons aussi le lien systémique qui relie entre eux ces multiples objectifs du millénaire. Aucun ne pourra être réalisé si l'on ne poursuit simultanément tous les autres. Enfin, au cours de ces années, dans le domaine des relations internationales, le caractère systémique des problèmes posés par la pauvreté et les atteintes parfois irrémédiables portées à l'environnement était enfin mieux reconnu. Ils devenaient ainsi des problèmes communs à la communauté humaine, quel que soit le lieu où ils se manifestent. La relation d'assistance, puis de coopération, pouvait alors devenir relation de partenariat, et le développement durable passait ainsi progressivement de l'ordre de l'incantation à celui des engagements de tous.
Malheureusement, Michel Candessus le constate et le déplore, les actes n'ont suivi les engagements que de façon très partielle.
La conférence de Johannesburg s'est ouverte par un constat d'alerte. Bon nombre de résolutions adoptées à Rio, premier sommet mondial du développement durable, n'ont pas été tenues. Bon nombre des engagements du millénaire sont en passe de ne pas être atteints, en tout cas là où l'effort mériterait d'être le plus intense, en Afrique. Bon nombre de pays rechignent à mettre en œuvre, voire à ratifier, des accords adoptés dans l'engouement des sommets mondiaux. La crainte se fait donc jour que l'objectif du développement durable s'éloigne toujours davantage, alors que s'intensifient les atteintes irrémédiables à l'environnement, que se creuse le fossé entre riches et pauvres, et que la croissance mondiale languit. Nous sommes donc loin du compte. La frustration et la perplexité se répandent dans les rangs des militants du développement durable. La recherche effrénée du profit par les entreprises ou la négligence des gouvernements sont incriminées. Elles ne sont pourtant pas seules en cause. En effet, au-delà de ces deux derniers éléments d'explication de la médiocrité de nos avancées collectives, un autre, peut-être moins voyant, mais de portée très générale, me semble prévaloir. Notre refus collectif de porter nos moyens à la hauteur de nos ambitions.
Un refus collectif, mais un refus de quoi précisément ? Un refus de changer de modèle de civilisation. Telle est la grande idée développée par Michel Candessus. Le développement durable, s'il est pris au sérieux dans ses trois composantes et notamment dans sa dimension sociale, ne vise rien de moins qu'un changement de modèle de civilisation.
Il ne peut donc être atteint par une sorte de réformisme mou qui ne bousculerait que nos voisins. Il implique la remise en cause de modèles de consommation, d'allocation, de ressources et de partage du pouvoir, l'adaptation aussi du dispositif institutionnel mondial. Les 20 dernières années ont été marquées, reconnaissons-le sans embâge, par un accord tacite entre les principaux gouvernements du monde pour ne pas soulever ces questions qui fâchent. Ce sont pourtant elles qu'il faudrait avoir à l'esprit pour fonder une stratégie crédible. Demandons-nous donc ce que cela peut impliquer.
Michel Candessus aborde maintenant la troisième partie de son exposé, ainsi qu'il l'avait annoncé, les conditions sine qua non, dit-il, d'une dynamique pour fonder l'avenir.
Il s'agit tout simplement de faire un grand pas de plus. La dernière décennie nous a vu passer de l'incantation aux engagements. Il nous faut aller maintenant des engagements à l'action. Il n'y aura pas de développement durable à moindre prix. Sans prétendre offrir ici le plan d'action correspondant, je voudrais en indiquer trois composantes essentielles, en consonance singulière, je pense, avec quelques préoccupations centrales de l'Académie des sciences morales et politiques. Tenir parole. S'engager dans le partenariat dans sa vérité. Aborder de front le problème de la réforme des institutions mondiales. Tenir parole. Les engagements du millénaire, l'acceptation du partenariat, sont autant de paroles données en notre nom à tous. Des paroles qu'il faut retenir. On les oublie souvent une fois les lampions des sommets éteints. Et tenir. Il s'agit, ne l'oublions pas, des paroles du Nord comme du Sud comme du Nord. À l'inverse de l'autre grand engagement international non encore tenu, la célèbre promesse des pays de l'OCDE, à l'exception des États-Unis, de parvenir à consacrer avant 2000 0,70% de leur PIB à l'aide au développement, tous les engagements qui, de près ou de loin, touchent au développement durable sont des engagements du Nord comme du Sud, dans la limite évidemment des moyens des uns et des autres. Tous les pays devraient refléter ces priorités dans leurs budgets nationaux, et je me demande, pour ce qui est de nos pays du Nord, pourquoi la règle d'or des services votés, qui s'applique par exemple au service de la dette, ne prévaut pas aussi en ce qui concerne le respect d'engagements internationaux qui touchent à des objectifs aussi fondamentaux pour l'espèce humaine.
Tenir parole, je ne saurais assez insister sur ce point, dit Michel Candessu. Écoutons comment il a tenté de faire partager sa conviction au chef d'État du G8.
Les engagements internationaux des 10 dernières années recouvrent l'essentiel de la dimension sociale du développement durable. Ils en sont le cœur. Il ne reste plus qu'à prendre les dispositions nécessaires pour les tenir. Prenant congé des chefs d'État et de gouvernement du G8 à la fin de ma mission au FMI au début de l'an 2000, j'ai cru important de leur suggérer non plus de faire de la première décennie du XXIe siècle une énième décennie de telle ou telle grande cause, mais la décennie des engagements tenus. Je suis certain qu'ils n'y ont vu aucune impertinence. Je n'ai pas d'indication pour autant qu'ils aient cru nécessaire de retenir cette suggestion, à l'exception toutefois de la mise en place d'un dispositif annuel de vérification multilatérale de l'état de nos progrès vers la réalisation de ces objectifs. J'insiste sur ce devoir d'exemplarité dans le respect de la parole donnée. C'est pour moi le degré zéro du partenariat et bien évidemment de la quête du développement durable. Toute société humaine repose sur la parole donnée. Prendre cette obligation à la légère aboutit à anéantir toute chance d'avancer. Or, nous savons où l'oubli de nos engagements nous conduit. Au jeu sauvage de forces du marché non régulées. Trop longtemps, nous avons pris nos engagements à la légère. Si nous permettons au cynisme de prévaloir dans ce domaine, nous devrons ranger le développement durable sur l'étagère des utopies inaccessibles. Supposons en revanche que Nord et Sud respectent leurs engagements. Cela devrait nous entraîner une spirale ascendante et vertueuse vers une croissance supplémentaire dépassant les tendances actuelles. On imagine facilement les nombreuses synergies qui pourraient se développer alors entre les dépenses sociales et la croissance, entre l'éducation et la démocratie participative, entre l'éducation des filles et la capacité des femmes à contrôler les naissances et leur propre vie. De telles synergies augmenteraient nos chances d'atteindre le niveau le plus élevé de croissance indispensable pour, comme promis, réduire de 50% l'extrême pauvreté d'ici à 2015 et assurer les coûts de la préservation de l'environnement. Pour y parvenir, nous devons en quelque sorte agir la main dans la main, en partenariat.
Agir en partenaire, certes, mais qu'est-ce à dire exactement ? Michel Candessu précise sa pensée sur ce point.
Ce n'est probablement pas par pure coïncidence que, alors qu'émergeait progressivement le concept de développement durable, l'approche du partenariat s'est progressivement substituée, comme cadre du dialogue Nord-Sud, à celle de l'assistance et de la coopération. Il est bien clair qu'il n'y aura pas du jour au lendemain substitution d'un modèle à l'autre. Mais il y a là une tentative à laquelle il serait irresponsable de ne pas donner sa chance. Notons au surplus la mutation qui s'est opérée au cours des dernières années dans le concept même de partenariat. Initialement, il n'était appliqué timidement d'ailleurs qu'aux relations d'État à État. Aujourd'hui, il est multidimensionnel et veut colorer aussi les interventions dans ce concert mondial des entreprises, des institutions financières et de la société civile. la prise au sérieux de cette nouvelle approche des relations économiques internationales devra conduire à des changements dont toute l'ampleur n'a pas encore été saisie, il s'en faut, par les principaux intéressés. Le temps me manque pour explorer ici les nombreuses avenues qu'un véritable partenariat pourrait ouvrir. Je voudrais cependant souligner qu'il impliquerait à tout le moins de mieux assurer la participation des pays les plus pauvres à la conduite des affaires économiques mondiales. En cela, le partenariat n'est que l'autre nom de la justice. Cela devrait conduire à une soigneuse révision, institution par institution, des modalités de représentation des pays au sein des institutions mondiales et des modalités pratiques de leur participation aux instances délibératives. D'instaurer une instance suprême d'arbitrage politique mondial où les pays du tiers-monde seraient équitablement représentés, j'y viendrai dans un instant. Mais il me faut d'abord souligner la chance que représente pour la promotion du développement durable, comme pour l'avenir de ce continent, de la pauvreté extrême qu'est l'Afrique, ce qu'il est convenu d'appeler le NEPAD, sigle anglo-saxon, qui désigne le nouveau partenariat pour le développement économique pour l'Afrique. C'est avec enthousiasme que j'ai accepté d'être pour cette affaire le représentant personnel, le Sherpa, comme on dit, de M. le Président de la République, car il s'agit pour la première fois, je crois, dans l'histoire, d'une offre de partenariat dont les pays d'Afrique, hors le Nord, ont pris unanimement l'initiative. Il nous faut reconnaître à quel point ce partenariat nous engage. Il nous a déjà amenés à faire adopter pour le dernier sommet du G8, à Kananaskis, un vaste plan d'action initial s'efforçant de répondre par des initiatives concrètes à 8 priorités dégagées par les pays africains. Nous reprenons maintenant le travail en commun pour tenter d'aller plus loin, sans nous dissimuler que la logique du partenariat peut nous amener à des remises en cause fondamentales, y compris dans la manière dont nous conduisons notre politique de coopération et en assurons la charge budgétaire.
Ainsi, pour agir en véritable partenaire, là encore, dit Michel Cantsu, il faut changer. Changer de politique de coopération et oser aborder de front les problèmes de gouvernance mondiale, car le développement durable ne peut être conçu qu'à l'échelle mondiale. C'est le point qu'il développe maintenant.
Nous le voyons d'évidence, le développement durable soulève, dans ses 3 dimensions, des problèmes qui dépassent de loin les moyens d'action des États-nations, fût-ce du plus important d'entre eux. La plupart des atteintes qui lui ont été portées au cours des dernières décennies, climat, environnement, criminalité, notamment financière, drogue, piratage informatique, migration, grandes endémies, etc., ignorent les frontières de l'État-nation. Se sont situées d'emblée à l'échelle mondiale. Nous avons désormais, avec les progrès des moyens de communication, les avancées dans le dialogue et les méthodes de coopération internationale, la possibilité de les aborder comme famille humaine à cette échelle mondiale qui, si elle n'est pas la seule, est pourtant la plus pertinente. Or, par une singulière courte vue, nous refusons de nous en donner les moyens. Depuis les années 1945-1950, malgré des initiatives spectaculaires comme la conférence Nord-Sud des années 70, ou celle, qui fit long feu, de la conférence de Cancun en 1981, peu de changements significatifs ont été apportés à l'organisation institutionnelle mondiale, à l'exception de la création du G5-G7, sur laquelle je reviendrai dans un moment. La crise mexicaine de 1994-1995 et surtout la crise asiatique n'ont pas été saisies comme l'occasion d'une réflexion plus ambitieuse. Une telle réflexion est nécessaire si l'on veut définir les stratégies qui nous permettraient de mieux nous garder des risques collectifs et de dégager ensemble une vue plus claire de notre destin planétaire. Certes, ce qui se fait à l'heure actuelle avec les moyens du bord. Les Nations Unies, les institutions de Bretton Woods et toutes les formes de coopération bilatérale ou multilatérale n'est pas négligeable. Et c'est à cela probablement que l'on doit que la crise asiatique et ses prolongements ne se soient pas transformés en une crise systémique majeure. Mais nous sentons qu'il y a mieux à faire.
Il y a mieux à faire, mais comment ? Michel Candessus propose d'abord une réflexion sur les Nations Unies, sur la responsabilité des institutions internationales, sur les transformations nécessaires, les réformes, les responsabilités, les stratégies. Écoutons-le.
Il est indispensable que l'on réfléchisse à la manière dont l'appareil institutionnel des Nations Unies répond aux besoins d'aujourd'hui. Quelques carences sont évidentes dans le domaine de l'environnement et des migrations en particulier. Il convient donc de l'adapter aux nouvelles urgences de la mondialisation. Un des problèmes à traiter à cet égard serait celui de la responsabilité politique des institutions internationales, trop souvent vues comme des technocraties irresponsables, alors que chaque jour, des responsabilités plus importantes leur sont conférées et que, de fait, leurs orientations relèvent en dernier ressort des gouvernements. Une réforme modeste consisterait à transformer le comité intérimaire du FMI, où siègent les ministres, en un comité non plus simplement consultatif, mais décisionnel pour toutes les grandes orientations stratégiques de l'économie mondiale. Cela placerait clairement aux yeux de l'opinion publique les responsabilités là où, de fait, elles se trouvent. Cette proposition n'a pas été, pour l'instant, retenue. Une autre suggestion, plus importante celle-là, guère éloignée de l'idée du Conseil de sécurité économique de Jacques Delors, consisterait à élargir le sommet du G7 en une réunion des chefs d'État et de gouvernement des 24 pays représentés au conseil d'administration du FMI et de la Banque mondiale en présence des dirigeants des principales organisations mondiales et du secrétaire général de l'ONU. Cela permettrait d'opérer une coordination des stratégies dont ces organisations ont la charge et établirait un lien fort et plus évident entre ces institutions et les représentants les plus légitimes de la communauté mondiale et notamment du monde du développement. Une réforme de ce type m'apparaît essentielle car il est tout à fait contraire à l'esprit de partenariat de prendre des décisions importantes concernant les pays les plus pauvres sans que ceux-ci soient partis à la délibération et à la décision.
Ces propositions ont-elles une chance d'aboutir ? Pour Michel Candessus, il n'y a pas de marche arrière possible. Il appelle à une lucidité, à un courage, à une imagination pour engager véritablement les transformations indispensables.
Ces propositions déjà anciennes n'ont pas encore abouti. Il ne nous reste plus qu'à persévérer dans cet effort, car c'est le bon. Il ne vise qu'un très modeste premier pas dans une démarche beaucoup plus vaste, indispensable et urgente. Il suffit pour le comprendre de comparer notre monde et celui de 1945. Chaque pays a désormais conquis sa souveraineté. Chacun veut exercer sa pleine responsabilité face à des problèmes de dimension mondiale et nous savons bien que la participation effective de chaque pays à la gestion de la cité globale est une condition clé du bon fonctionnement de celle-ci. Bien plus, alors que la mondialisation s'est opérée jusqu'ici au gré de dynamisme financier ou technologique, en quelque sorte autonome, il est grand temps maintenant de les assumer, de prendre des initiatives pour que la progression vers l'unité du monde se fasse dans la cohérence et au service de l'homme. Tout cela appelle des institutions qui facilitent une réflexion en commun lorsqu'il le faut, au niveau le plus élevé, et qui soit capable de faire adopter et de suivre des stratégies mondialisées lorsqu'il apparaît que les problèmes ne peuvent être proprement appréhendés que sur le plan mondial. C'est particulièrement le cas de l'importante question des biens publics globaux. Un effort d'imagination s'impose donc pour définir les institutions qui serviraient au mieux le bien commun mondial, ou à tout le moins, pour apporter aux institutions nées à San Francisco ou à Bretton Woods les correctifs aujourd'hui nécessaires.
C'est donc un nouvel ordre institutionnel qu'invite Michel Candessu et, sans se cacher la difficulté d'un tel projet, il affirme que cela est possible sous réserve d'un plus de citoyenneté. Écoutons son invitation à ce qu'il faut bien appeler des changements radicaux.
Mais cela ne sera pas un pur produit d'une nouvelle conférence mondiale. Pour que ce nouvel ordre institutionnel s'établisse, il y faut plus que le talent des diplomates ou la magie des sommets mondiaux. Rien de moins que l'affirmation progressive d'une nouvelle citoyenneté, non pas un vague cosmopolitisme, mais une véritable citoyenneté, sans dimension mutilée, riche de toutes nos appartenances réconciliées. C'est d'un plus de citoyenneté, à tous les niveaux, local, régional, national, mondial, qu'il s'agit. Comment y arriver ? Ce n'est pas une petite affaire. Il doit en effet s'agir d'une citoyenneté effective, génératrice de solidarité. Le changement qu'il y a lieu de prévoir, par exemple, dans les grands pays industriels, pour appuyer les efforts de tant de pays qui luttent au bord de l'abîme pour tenir leurs engagements, est modeste à l'heure où le partenariat commence à se mettre en place. Mais il devrait progressivement devenir de plus en plus grande envergure. En effet, l'exigence de solidarité mondiale ne se limite pas au sacrifice du superflu. Ce qui est en cause, c'est la protection de l'acquis, de certains styles de vie, de modèles de consommation, de la structure des pouvoirs établis qui régissent nos sociétés. Le changement que requiert le développement durable appelle donc des changements radicaux. Au nord comme au sud, il ne s'agit nullement de détruire le tissu de nos sociétés, mais de revoir, dans cette nouvelle perspective, nos choix collectifs de société. Cela dit, ne nous méprenons pas. Dans l'optique du développement durable, le XXIe siècle doit être celui du renforcement progressif des institutions mondiales, mais aussi celui de la décentralisation et de l'épanouissement simultané de l'ensemble des échelons de responsabilité. L'affirmer n'enlève rien, évidemment, à la nécessité de mieux structurer l'échelon mondial, de créer des organisations régionales là où elles manquent encore, et de renforcer la dimension politique des organisations économiques régionales déjà en place, telles que l'Union européenne ou le Mercosur. Plus on juge indispensable de consolider ou d'investir de nouvelles responsabilités les instances mondiales, plus il est nécessaire de les faire accepter par les opinions publiques. Plus il est nécessaire aussi de poser que leur contribution ne peut être que subsidiaire et de faire comprendre par tous qu'un travail ne peut s'opérer avec succès sur le plan mondial qu'assumé sur le plan local et soutenu par des initiatives à tous les niveaux de la chaîne institutionnelle. La citoyenneté, partout, est finalement le quatrième pilier du développement durable.
Cette dernière phrase de Michel Candessu, « La citoyenneté partout est finalement le quatrième pilier du développement durable », pourrait servir de conclusion. Michel Candessu a néanmoins terminé sa communication devant les académiciens de l'Académie des sciences morales et politiques par ces quelques phrases finales que nous écoutons maintenant.
Le moment est venu de conclure, comme on l'aura perçu derrière cette explication des différentes facettes du développement durable. C'est un triple appel que la communauté humaine s'adresse à elle-même, à un surcroît de responsabilité et de solidarité, et à la mise en place de ce quatrième pilier de la citoyenneté universelle. En tout cela, en fait, nous n'avons peut-être, et ce serait heureux, que la reconnaissance de différents aspects de ce seul pouvoir que la communauté humaine s'est reconnue lorsqu'elle a adopté l'article 1er de la Déclaration universelle des droits de l'homme le 11 décembre 1948, le devoir si vite oublié d'agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. Fraternité avec les plus pauvres. Fraternité aussi à l'égard des générations qui nous suivent.
Vous venez d'entendre la lecture de la communication de Michel Candessus qui s'intitulait « La dimension sociale du développement durable », lecture qu'il avait lue devant l'Académie des sciences morales et politiques en 2003. Je vous rappelle que le rapport de Monsieur Candessus, ce rapport qui s'intitule « Le sursaut vers une nouvelle croissance pour la France » est publié par la Documentation française et que ce rapport a reçu et vient de recevoir en octobre 2005 le prix Zérili Marimo, qui est un prix annuel que décerne l'Académie des sciences morales et politiques. Cette émission sera archivée, bien entendu, comme toutes les émissions de Canal Académie, et vous pourrez la télécharger à votre gré. Merci de votre écoute et à bientôt.